Le passage que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Marc 10, versets 35 à 45. Pour ceux qui ont leur Bible, n'hésitez pas à l'ouvrir, que ce soit en papier ou de manière numérique. Donc Marc 10, versets 35 à 45. Je me rends compte que je ne me suis pas présenté en fait. Pour la plupart, on se connaît, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, non, normalement tout le monde me connaît, mais je m'appelle Evelyn Michel, j'ai 33 ans. Je suis marié à une charmante jeune femme qui se trouve ici aujourd'hui. Et ça fait à peu près 5 ans que je suis ici à l'église Calvary Chapel. Le temps passe vite. Et pendant que je préparais cette exhortation, je me suis rappelé une scène de mon enfance. En fait, si vous voulez, j'aimais bien prendre la voiture avec mes parents. Sauf qu'il y a eu un jour où c'était un peu moins plaisant de prendre la voiture avec mes parents parce que on s'est un petit peu embrouillé avec mon père. Enfin, c'est plutôt lui qui m'a embrouillé, c'est souvent dans ce sens-là. Et moi, j'ai été pris un petit peu d'un zèle et j'ai haussé la voix sur mon père. Mon père, c'est ce papa africain qui n'aime pas trop que les enfants haussent la voix. Et il m'a dit d'un ton un peu sévère, il m'a dit « attention, hein, je suis ton ami, hein, je suis ton père, je ne suis pas ton ami. » Et bizarrement, ça m'a vraiment glacé et pendant longtemps, je ne pouvais pas associer le mot père et le mot ami. Pour moi, c'était des mots qui n'allaient pas forcément ensemble. C'est pas des mots qui pouvaient exister. Mon père était mon père, certes, j'avais mes amis, mais mon père pouvait pas être mon ami. C'était mon père, quelqu'un que j'aimais beaucoup, que je respectais, que j'honorais. Et l'amitié, c'était un peu plus difficile. Il me l'avait bien dit ce moment-là, que je suis ton père, je ne suis pas ton ami. Ça a été pendant longtemps, longtemps difficile, pendant ma jeunesse. Mais en grandissant, j'ai un peu mieux compris qu'effectivement, quand on est enfant, il y a parfois des limites à ne pas dépasser, des comportements à ne pas avoir. Et c'est dans ce sens-là que, effectivement, parfois, il ne faut pas prendre les parents comme des enfants. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et en fait, on va voir dans son texte-là que malgré le fait que des fois dans nos vies, il y a des positions, il y a des personnes où il y a des mots qu'on ne pense pas pouvoir assembler ensemble, comme par exemple se dire que notre patron peut être notre confident, c'est pas forcément quelque chose qui est aisé. Ou peut-être se dire que notre femme peut être aussi notre patron, c'est peut-être des choses qu'on a du mal parfois à accepter. Ou que encore notre enfant peut être celui qui s'occupe de nous, c'est des choses qui ne vont pas forcément ensemble. Et, oui, il y a des choses qui ne collent pas, qui ne se juxtaposent pas en fait. Sauf que l'on va voir dans ce texte deux mots. Le premier c'est le mot roi et le deuxième c'est le mot serviteur. On va se rendre compte finalement que ces deux mots qui, en apparence, semblent opposés, peuvent être rassemblés et qui peuvent donner du sens, même si, en apparence, ils peuvent être opposés. Et on va voir, du coup, dans cette scène entre Jésus et ses apôtres, en particulier deux de ses apôtres, on va voir que serviteur et roi sont des mots qui peuvent aller ensemble et Jésus-Christ va bien l'incarner. Et on va comprendre finalement que pour arriver à la grandeur, il faut parfois avoir connu la petitesse. Et que, pour autant, l'humilité n'enlève rien à l'honneur. Alors, on va voir comment justement, à travers ce passage, Jésus nous l'explique par sa vie, par ses paroles et par ses actes. Alors, on va commencer par la lecture, si vous le voulez bien. Marc 10, versets 35 à 45. Du coup, nous avons ce passage qui nous parle des apôtres et de Jésus-Christ, et plus particulièrement de deux apôtres, deux frères, qui sont les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Jacques et Jean sont les apôtres, sont parmi les premiers apôtres à avoir suivi Jésus-Christ. Et ces apôtres-là étaient appelés aussi les fils du tonnerre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, du tonnerre qui grondait dans Paris après les fortes chaleurs. Ça fait énormément de bruit. Donc je n'ose pas imaginer quel était le tempérament de ces deux personnes. Et du coup, Jacques et Jean suivent Jésus, et comme ils sont souvent à ses côtés, ils se disent « Bon, là on a la chance, on a Jésus qui est à côté de nous, on sait qui il est, et on va peut-être poser une question pour essayer de, comme on dit en français courant, gratter une petite place à ses côtés. » Et là, c'est Jésus qui prend le temps de leur répondre. La scène avance, et ça crée du tumulte au sein des apôtres, etc., etc. Mais ce que je peux retenir finalement dans cette scène-là, c'est Une première chose déjà, dans un premier temps, c'est que Jacques et Jean, contrairement aux autres apôtres, étaient vraiment dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment où Jésus, sur la montagne, était transfiguré, il était venu avec trois apôtres. Il y avait Pierre, il y avait Jacques et il y avait Jean. Effectivement, Jacques et Jean étaient parmi les apôtres ceux qui avaient peut-être une connaissance un peu plus particulière de qui était Jésus. Ils avaient une vision plus claire, certainement, de qui était Jésus. Puisque sur cette même montagne où il était transfiguré, ils ont entendu la voix de Dieu qui disait « Celui-ci est mon fils ». Donc ils avaient vraiment pleinement conscience de qui était Jésus. Et ils lui ont fait cette demande, du coup, est-ce qu'on peut être à ta droite et à ta gauche? À la droite et à la gauche, qui sont, comme vous le savez, peut-être des places d'honneur en général. C'est à la droite et à la gauche des personnes qu'on se met quand on veut être honoré. Et du coup, ce que l'on peut voir déjà dans le premier temps, on va y aller vraiment étape par étape. Dans la première étape, on va voir le verset 35 à 37. Je vais le relire pour vous à nouveau. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Que désirez-vous que je fasse pour vous ? Leur demanda-t-il. Ils répondirent, accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans ta gloire. Jacques et Jean savent trois choses. La première, ils savent qui est Jésus. Ils ont marché avec lui, ils ont vu ce qu'il faisait, ils ont vu le témoignage de sa vie, ils ont compris quelle était sa mission. Et une deuxième chose qu'ils savent, ils savent qu'il a tout pouvoir. Ils savent qu'il est celui qui peut guérir, ils savent qu'il est celui qui donne la vue aux aveugles, qui peut rendre la marche à celui qui est paralytique, qui est celui qui peut faire arrêter le sang pour une femme qui avait des pertes de sang depuis des années. Ils connaissent Jésus, ils savent de quoi il est capable. Et c'est parce qu'ils savent de quoi il est capable qu'à ce moment-là, ils le font peut-être avec pertinence ou impertinence, chacun sera libre de choisir qu'est-ce qui a motivé ces deux apôtres-là. Ils font le choix de s'approcher de Jésus et de demander cette chose. « Seigneur, nous désirons que tu fasses quelque chose pour nous. Accorde-nous de siéger l'un à ta droite, l'un à ta gauche. » Au début, je me suis dit, Jacques et Jean, c'est des opportunistes. Ils sont un peu gonflés quand même. Ils se mettent de côté, ils laissent les 10 autres et ils essayent de gratter des places auprès du Seigneur pour la vie d'après. Je me dis, c'est vraiment des opportunistes. Et après, j'ai eu une deuxième pensée. Je me suis dit, peut-être sont-ils des opportunistes, mais c'est parce qu'ils connaissaient Jésus, comme je vous l'ai dit avant. Ils savaient de quoi il était capable. Ils savaient qu'il avait tout pouvoir et toute autorité. Et je me dis, finalement, même s'ils étaient opportunistes, ils avaient quand même énormément de foi. Et ça, c'est quelque chose que quand même je peux reconnaître de Jacques et de Jean. C'est que, au-delà de la motivation qui les a amenés à faire cette demande, parce que je ne peux ni la juger, ni vraiment savoir qu'est-ce qui les a motivés, je peux savoir une chose, c'est qu'ils savaient qui était Christ. Et ça, nous rappeler plutôt que dans la vie de tous les jours, il faut que l'on sache qui est Christ et il faut que l'on sache qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu et parce que nous sommes enfants de Dieu, il y a des choses auxquelles on peut accéder. Il y a des choses qui peuvent se dépasser dans nos vies pour pouvoir nous permettre d'avancer dans ce que nous voulons et de ce en quoi nous croyons. Alors peu importe que ce soit par pertinence ou impertinence, je vois déjà premièrement que Jacques et Jean avaient la connaissance de Christ et avaient la foi de pouvoir demander au Seigneur ce qu'il voulait. Et finalement, face à cette demande, on peut voir que Jésus leur répond calmement. Calmement, c'est moi qui le rajoute, parce que je n'arrive pas à voir Jésus autre qu'étant calme et étant plein d'amour. Donc, Jésus qui leur répond calmement, « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» Et effectivement, Jésus était prêt à les écouter. Parce que Jésus, c'est celui qui a lavé les pieds de ses disciples, c'est celui qui se met en quatre pour nous, c'est celui qui est descendu de son trône de gloire pour se faire homme, se faire humilier pour que nous ayons la vie. Et finalement, au-delà de la pertinence et de l'impertinence de Jacques et Jean, on a Jésus qui est là et qui tire l'oreille, qui tend l'oreille et qui est prêt à les écouter. Et ça nous parle, ça me fait dire que quand j'ai des questions à poser à Christ, j'ai pas besoin de réfléchir 10 000 fois. Quand j'ai des soucis, des difficultés, j'ai pas besoin d'hésiter ou de me demander si ma question est juste ou pas. Je suis auprès de mon père, en fait. Et donc, je peux lui poser des questions. Et finalement, Jacques et Jean, ils ont essayé de doubler les autres apôtres, c'est vrai. Mais ils l'ont fait parce qu'ils savaient qui était Jésus et parce que Jésus est amour et qu'il est là aussi pour nous écouter. Et finalement, Jésus interprète clairement ce verset dans Matthieu 5, verset 42, qui dit « Il donne à celui qui demande Non, il dit plutôt « Donne à celui qui te demande et ne détourne pas ton regard de celui qui veut emprunter de toi. » Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas détourné son regard, mais au contraire, il était là et il les a écoutés. Ensuite, prochaine étape, verset 38 à 39. « Mais Jésus leur dit, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?»« Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Finalement, ils sont quand même vraiment très audacieux. Je comprends pourquoi on les appelle les fils du tonnerre. Ils sont très audacieux. Et quand je vois cette scène-là, finalement, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec la scène où, dans Matthieu 26, verset 31, je vais vous la paraphraser, on a Jésus qui est devant les apôtres. Il sait que le soir même, il sera saisi et attrapé par les personnes qu'ont envoyé les pharisiens et les scribes. Et il leur dit, ce soir, pour vous, je serai une occasion de chute. Et là, on a Pierre, que vous connaissez bien. Pierre, et je vais un peu mimer la scène. Hein. Pierre dit alors, peut-être que devant eux, peut-être que pour eux, tu seras une occasion de chute. Mais pour moi, Seigneur, tu ne seras jamais une occasion de chute. Pierre, mon ami Pierre. Le problème de mon ami Pierre, le problème de Jacques et de Jean, c'est que bien souvent, on parle beaucoup trop vite. On parle et c'est après que la réflexion vient. Comme un peu moi qui ai dit oui tout de suite à Mike lorsqu'il m'a demandé de faire l'exhortation, j'ai dit oui tout de suite. Effectivement, c'est le cœur qui parle, c'est les émotions qui parlent. Et parfois, on est un peu trop prompt à parler. Et il y a un verset qui dit dans Ecclésiaste 5, verset 6, il y a un verset qui dit « Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. » Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Bien souvent, ce qui nous condamne, c'est notre bouche. Bien souvent, ce qui nous met des problèmes, c'est que on parle trop, on parle trop vite, on parle sans réfléchir. Et finalement, je pense que, un peu comme Pierre, un peu comme Jacques et Jean, parfois, on a tendance à parler vite. Et à vouloir des choses, parce qu'on voit le prix qui brille au loin, et on se dit, je veux cette chose-là. Sauf que Jésus, lorsqu'il leur dit, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez, c'est en fait ce qui se passe. C'est que bien souvent, on veut des choses. Mais on ne sait pas par quel chemin il faut passer pour arriver à ces choses-là. On ne sait pas quelles difficultés se mettront sur nos chemins avant qu'on arrive à ces choses-là. On ne sait pas quel est le chemin tortueux qui pourra nous amener à ces choses-là. Et souvent, c'est l'émotion, c'est l'envie d'avoir quelque chose, l'envie du gain, l'envie d'une certaine position qui nous amène à dire oui. Et malheureusement, parce qu'on n'est pas omniscient, on n'a pas conscience de toutes les étapes par lesquelles nous passons. Après, effectivement, c'est de la fougue. Mais, encore une fois de plus, je ne veux pas nous condamner, moi-même le premier. Au contraire, je veux être un peu comme Jésus. Jésus, il n'a pas condamné Pierre. Jésus, il n'a pas condamné Jacques et Jean. Il les a écoutés. Il les connaissait, en fait. Il savait que Pierre était plein de fougue. Il savait que Jacques et Jean étaient des personnes tempétantes. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, comme la tempête. Et finalement, il ne leur en a pas voulu. Alors moi, ce que je me suis dit, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, Michel, sois patient envers toi. Michel, même si c'est vrai que des fois, tu t'emportes un peu vite à vouloir des choses, sois patient envers toi parce que il se peut que tu échoues parfois. Il se peut que pour arriver à là où tu voulais, ça soit difficile. Il se peut que cette chose que tu désirais tant ardemment, en étant sur le chemin, tu t'es rendu compte que ça a été beaucoup plus difficile et les gens t'ont peut-être dit non, tu n'es pas capable et tout ça. Et parfois, effectivement, on peut se faire devancer par la parole et notre bouche peut nous faire pécher. Mais Jésus ne nous en tient pas rigueur, au contraire, il est là pour nous épauler. Pierre, finalement, il a renié Jésus trois fois. Il a renié Jésus trois fois avant que le coq ne chante. Et pourtant, on sait tous quel est le ministère de Pierre. Jacques et Jean, ils n'avaient aucune conscience de ce que demandait des conséquences que demander d'être à la droite et à la gauche du Père. Et pour autant, Dieu ne leur a pas porté rigueur, au contraire. Ils vont avoir des vies de martyrs, ils vont donner leur vie pleinement pour l'Évangile, et finalement, ils vont donner vraiment leur vie pour Christ. Et c'est pour dire que parfois, on peut être un peu hâte, on peut avoir un peu hâte de dire les choses, mais Dieu ne nous en tient pas rigueur, alors soyons patients envers nous-mêmes, soyons pleins de bonté envers nous-mêmes. On dit souvent d'aimer les autres, mais ça passe souvent par s'aimer soi-même, s'autoriser à être plus patient envers soi-même, s'autoriser à ce que l'on fasse des erreurs et que malgré tout, Dieu nous aime et qu'il faut encore se relever et réessayer de nouveau, tomber et se relever, rechuter et se relever à nouveau. Parce que Dieu nous aime et quand il nous a appelés, chacun d'entre vous ici, il savait le chemin par lequel nous passions, il savait nos faiblesses, nos limites, mais il est celui qui est capable de nous mener jusqu'au bout du chemin. Passons à l'étape suivante, dans le verset 40. Le verset 40 nous dit « Mais quand assiégé à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » Jésus, à ce moment-là, toujours dans cette attitude un peu d'humilité, il leur annonce, il les informe qu'en fait, lui, ce qu'il fait, il ne fait pas de sa propre intelligence, ni de sa propre force, il ne fait que ce que le Père lui dit. Dans Jean 5, verset 19 à 29, on peut aussi lire, je vais lire juste la première phrase, « Le Fils ne peut décider lui-même de ce qu'il doit faire. » Et en effet, Jésus décide de ce qu'il doit faire, ou plutôt dépend de la décision du Père. Et c'est pour ça que finalement il leur dit « Il ne m'appartient pas de vous l'accorder. » Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ben, on ne sait pas finalement si Jacques et Jean sont à la droite ou à la gauche. On n'a pas le pouvoir de le savoir. Et vous savez, il y a un verset qui dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. » Les choses qui sont cachées appartiennent à Dieu, à nous. Et les choses révélées, ou plutôt le contraire, excusez-moi, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous. Ce que ça me fait dire, c'est ce passage-là, c'est que Jésus, il est guidé par le Père lui-même. Et il marche, pas à l'aveugle, mais par la foi et par l'obéissance. Et ça veut dire que nous aussi, finalement, dans nos vies de tous les jours, il faut que l'on apprenne à marcher par la foi et par l'obéissance. C'est pas évident. Je ne dis pas qu'à chaque instant, il faut être là à prier. Pas forcément. On peut le faire, c'est bien. On dit prier tout le temps. Donc on peut prier à tout moment. Mais je pense aussi que ce qui peut nous aider dans la vie de tous les jours, en tant que chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, c'est simplement se plonger dans la parole de Dieu. Je pense que moi, je n'ai pas fait suffisamment. Et je me suis souvent posé beaucoup de questions. Peut-être que si toutes ces fois, je m'étais simplement levé le matin et j'avais plongé mon regard dans la parole de Dieu, ça allait être beaucoup plus simple de prendre des décisions. Parce que dedans, il y a la parole de Dieu et c'est elle qui peut nous guider. Si Christ lui-même, qui était fils de Dieu, n'a fait que obéir à la parole de Dieu, alors à plus forte raison, nous qui voyons partiellement les choses, avons-nous besoin de la parole de Dieu pour pouvoir avancer? Et effectivement, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées appartiennent aux hommes. Parfois dans la vie, il y a des choses que l'on ne saura pas. On n'aura pas toute la connaissance. Et finalement, c'est ce qui fait notre part d'humanité. Ce qui fait ce qui fait que nous sommes des humains, c'est le fait que nous ne connaissons pas toutes choses. Nous ne sommes pas omniscients. Et cette part d'ignorance, finalement, ou de non-connaissance, c'est quelque chose avec lequel l'homme a du mal. Je pense que c'est quelque chose avec lequel les hommes ont du mal, et peut-être encore plus en France. En France, nous aimons la connaissance. Oh, ma chérie. Bon, ça va aller? Ok. En France, nous aimons la connaissance, et c'est difficile pour nous de dire « je ne sais pas ». Des fois, c'est... Il y a des personnes, elles ont beau ne pas savoir, elles vont tourner toutes les phrases, finalement, on va se rendre compte qu'elles ne savent pas. Et je pense que c'est important de ne pas savoir. Parce que ne pas savoir, c'est reconnaître qu'on n'est que des hommes. Ne pas savoir, c'est reconnaître ses limites. Ne pas savoir, c'est un signe d'humilité, de se dire ben en fait qu'on n'a pas toute la connaissance, mais peut-être quelqu'un d'autre là. Et c'est donc aussi pouvoir compter sur les autres. Et parfois aussi, on a des questions qui ne sont pas répondues. Mais un, c'est de l'humilité de se dire que je ne sais pas. Et deux, c'est aussi une preuve de foi et de confiance en Dieu de se dire ben en fait, Seigneur, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais si je veux me dire ce qui se passe, dis-le-moi. Si ce n'est pas le cas, alors j'avance malgré tout et par la foi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous encourager à que, même si parfois on n'a pas les réponses à nos questions, que nous puissions avancer avec assurance parce que Dieu sait pourquoi il nous emmène sur tel ou tel chemin. Avançons encore à l'étape suivante, si vous voulez bien. Versets 41 à 43a. Je lis. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple. et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. » Lorsque les autres apôtres, les dix autres, se sont rendus compte de la demande qu'avaient fait Jacques et Jean auprès de Jésus, ils étaient indignés. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils sont partis importuner le maître? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous douler? Ils se pensent plus grands que nous? Pour qu'est-ce qu'ils se prennent? Et je peux comprendre finalement cet agacement que pouvaient avoir les apôtres. Parce que j'ai l'impression un petit peu que quand même, au milieu des apôtres, il y avait un peu cette rivalité de savoir qui est le plus grand, qui est celui que Jésus aime, qui est celui que Jésus préfère. Finalement, tout ça, ça... La querelle, la jalousie, ça ne date pas de maintenant, hein, ça a toujours existé finalement. Et même au milieu de ceux qu'on appelle aujourd'hui les apôtres. Donc, finalement, ils étaient indignés et dans ce moment-là, Jésus, toujours si calme, rempli d'amour, il les appelle. Il les appelle et ce qu'il leur explique finalement, c'est, si je vais utiliser mes propres mots, c'est de changer de mentalité. Il veut leur faire comprendre que, vous savez, à l'époque, c'était... le roi Hérode qui régnait, Auguste qui était l'empereur, et comme tout empereur romain ou comme roi, c'était, je pense qu'il y avait vraiment deux manières de régner. Moi je résume comme ça, il y avait construire ou détruire. Construire et montrer que l'on est grand, et détruire, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui veulent s'opposer à nous, on les élimine, on les détruit, on fait acte de jeu de pouvoir, jeu de force, etc. Et finalement, ce peuple-là, ou les apôtres, c'est dans ça qu'ils ont grandi. Dans ces autorités, dans cette vision de ce qu'est l'autorité, de ce qu'est le pouvoir, de ce qu'est être grand. Et peut-être qu'ils se disaient à ce moment-là, ben, le seul moyen d'être grand, c'est de connaître c'est d'être auprès de celui qui est grand, d'être à ses côtés, de glisser un petit pot de vin, de lui parler. Mais alors qu'ils sont nés dans ce contexte sociopolitique, Jésus leur demande de changer de mentalité. Et il leur dit que finalement, ces jeux d'influence qu'ils connaissent, ces jeux de pouvoir qu'ils ont toujours observés à l'extérieur, bah qu'au milieu d'eux, ce n'est pas des choses qui pouvaient exister, ce n'est pas des choses qui devaient être de rigueur. Et ça, ça nous appelle vraiment à questionner nos référentiels. Questionner finalement qu'est-ce qu'on croit juste et séant dans nos vies. C'est vrai qu'autour de nous, on a des modèles. Hein. Ça peut être nos parents, ça peut être nos professeurs. Il y a aussi des gens que l'on observe, il y a des choses que l'on voit. Et parfois, ce que l'on voit n'est pas forcément la vérité. Parfois, ce que l'on voit n'est pas forcément ce que la Bible nous demande. Donc là, ce que Jésus demande, c'est changer de référentiel, changer de mentalité. Que finalement, ce qu'ils voyaient à l'extérieur, ce n'est pas ça que Jésus voulait. Et en fait, ce qu'il leur dit, c'est que, si je relis encore à nouveau, donc c'était 41-43a, il ne doit pas en être ainsi parmi vous, au contraire. Si quelqu'un est grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et en fait, c'est ce que Jésus demande. C'est que si aujourd'hui, vous pensez que pour être grand, c'est par la force, c'est par le réseautage, comme on dit aujourd'hui, le networking, c'est pas comme ça qu'on devient grand. Il y a un autre chemin que je vais vous montrer. Et c'est vrai que parfois, les choses que l'on voit autour de nous, les rôles modèles que l'on a autour de nous, on a des figures un petit peu qui existent dans nos vies et qui ne sont pas forcément les meilleurs. Parfois, on a un peu l'image du père qui ne va jamais s'excuser. On a quoi d'autre encore comme image ? L'image du patron qui est toujours oppressant. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit, mais en fait, ces rôles modèles que l'on a, ces manières de fonctionner que l'on avait, ce n'est pas forcément ce qui doit exister. Et vous, vous pouvez les changer. Aujourd'hui, vous pouvez être ce patron-là qui est rempli d'amour, qui est à l'écoute de ses employés. Vous pouvez être la mère qui s'excuse, le père qui ose s'excuser auprès de son enfant, qui ose se mettre au niveau de son fils ou de sa fille, même s'il est beaucoup plus petit. On peut être ces personnes-là, ces rôles modèles qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas eu la chance de connaître, parce que nous sommes enfants de Dieu et c'est ça que Dieu nous demande. Le Seigneur nous dit, ben, si on enlève au sel sa saveur, comment lui rendra-t-on? Nous sommes le sel et la lumière du monde et c'est ça qu'on doit faire. Donner finalement au monde de nouveaux rôles modèles, de nouvelles figures, et pour qu'ils puissent se dire « Ah, bah finalement, j'ai connu que des gens qui étaient comme ceci, mais finalement, je me rends compte que quand je te vois, tu as quelque chose de différent, et tu as une lumière qui est en toi et qui fait que, waouh, c'est intriguant quand même. » On va continuer avec l'étape suivante, l'avant-dernière, verset 43b à 44. Il écrit « Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. C'est une phrase qui est facile à entendre, mais qui n'est pas facile à mettre en pratique. Qui, aujourd'hui, veut être esclave? Je vois qu'aucune main ne se lève. C'est pas évident ce qu'il demande à Jésus. Et finalement, quand Jésus leur a dit « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez », ils ont répondu « Oui ». Mais je pense qu'ils ne savaient pas quel était le véritable chemin qui menait à la grandeur et à l'honneur. Ils ne savaient pas quel était le véritable chemin qui allait finalement les emmener à boire la coupe et être baptisés également. Et finalement, il faut que l'on puisse apprendre à désapprendre de ce qu'est l'honneur, de ce qu'est la grandeur, de ce qu'est la victoire. Et apprendre que pour être des parents honorés, ou encore pour être une épouse ou un époux qui est respecté, pour être un patron qui est considéré, un employé qui est considéré, il faut que l'on passe par être des serviteurs. Il faut que nous soyons des serviteurs. Alors, la question c'est, comment est-ce qu'on peut arriver à être des serviteurs? C'est pas quelque chose qui est aisé, mais je pense que ça passe déjà par une première chose, c'est apprendre à se remettre en question. Je pense que dans la vie, les hommes qui ont toujours réussi à avancer, les entreprises qui ont toujours réussi à avancer, c'est des personnes, des entreprises qui se sont toujours remises en question. Remises en question par rapport à qui ils étaient, par rapport à leur force, à leur faiblesse. Et c'est ça que je pense qu'il faut apprendre à se remettre en question. Et parfois aussi descendre d'un étage. On a l'habitude d'être un petit peu sur nos positions. Soit je suis le grand frère, ou je suis la personne qui a beaucoup d'expérience, ou je suis le papa, c'est moi l'homme, c'est moi la femme. Mais finalement, non. Parfois, je pense qu'il faut redescendre d'un étage, voire plusieurs étages, et se remettre à niveau des gens qui sont en face de nous. Et ça nous apprendra l'humilité, ça nous apprendra aussi le chemin qui mène à l'honneur, finalement. Et c'est parfois se mettre à niveau qui nous permet de pouvoir déjà manifester de l'amour à ceux qui sont en face de nous, parce qu'on est à leur niveau et donc on peut leur communiquer l'amour et pas les voir d'au-dessus. Et puis se remettre en question, c'est se remettre en question à la lumière de la parole de Dieu. Jésus lui-même pouvait dire « Il faut qu'ils croient ce que je diminue. » Si même Jésus a dit ça, alors nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut que nous puissions diminuer et que Jésus puisse croître dans nos vies pour que nous puissions être élevés. Il faut que nous soyons serviteurs finalement de chacun d'entre nous pour pouvoir être élevés aussi à un moment donné. Et je pense que finalement, c'est peut-être ça que Jacques et Jean ne savaient pas. Ils ne savaient pas que ce n'était pas en faisant du networking, en jouant du coude, en étant près de Jésus qu'ils pouvaient arriver à des grandes choses. Mais en fait, c'était en étant serviteurs des uns des autres, serviteurs des apôtres qui côtoyaient, qui pouvaient arriver à ce chemin-là. Passons enfin à la sixième étape, la dernière. J'espère que je n'ai pas été trop long avec vous. Ça va? Vous tenez? Il fait un peu chaud, je crois, non? Ça va aller? Ok. Et sinon, il y a de l'eau hein, avant la dernière étape. Ok. Dernier verset. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir. Et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Cette phrase, elle est prononcée pas par n'importe qui, mais par Jésus, le roi des rois. Et c'est ça qui est fou, finalement. Cette phrase, elle est prononcée par Jésus, le roi des rois. Et il est vraiment le roi des rois, celui qui peut tout. Matthieu même 28, 18, il dit, Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a vraiment toute autorité. Il avait toute autorité et il est descendu sur terre pour nous servir. Et il nous dit cette phrase, je ne suis pas venu le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir. C'est assez impressionnant quand même de dire que celui qui est au-dessus de nous est venu pour nous servir. Il est venu pour nous servir, il est venu pour aller au-delà de nos besoins. C'est-à-dire que même lorsqu'on n'exprime pas un besoin, parce qu'il connaît nos vies, il connaît nos soupirs et nos positions, il va au-delà de ça. Et c'est ce qui fait que Paul pouvait dire dans 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est une phrase qui est magnifique quand même. C'est une phrase qui donne de l'espoir quand même. De se dire que, en fait, quand j'en peux plus, quand le travail était trop long, trop difficile, quand finalement les collègues m'ont fatigué, mon patron m'a fatigué, Comment est-ce que mes enfants m'ont fatigué aussi, parfois. Quand mes amis me font des coups bas, ou ceux qui se disaient mes amis me font des coups bas. Lorsque j'étudie et que ça avance pas. Lorsque finalement j'essaie d'avoir ma promotion et mon patron ne voit pas ce que je fais. Bref, il y a tellement de choses qui se passent dans cette vie, la vie est tellement difficile. Et bien, quand on a ces problèmes, ces petites difficultés, Christ est là et on peut se décharger sur lui parce qu'il est là pour nous aider. Il est venu pour nous servir. Et ça, c'est quelque chose qui. C'est quand même une phrase qui nous donne de l'espoir, de pouvoir se dire que quand ça ne va pas, on peut se poser sur Christ et parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il a l'autorité, il peut changer les choses dans nos vies, il peut soulever les poids que l'on a sur nos épaules et les nous décharger, il peut ouvrir les portes qui étaient fermées, il peut changer les situations. Il y a aussi une parole, j'ai plus exactement la référence, je suis désolé, qui dit. Le cœur des rois est comme un fleuve et il le change comme il le veut. C'est-à-dire que même les décisions des hommes, il est capable de les changer. C'est-à-dire que peut-être que vous avez une personne qui était en face de vous, qui vous tenait tête et avec laquelle ça ne se passait pas bien, mais Jésus, Dieu, a le pouvoir de changer le cœur des gens pour les faire, pour les mettre en votre faveur, en votre avantage. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est ce qu'il dit finalement dans ce verset 6, verset 45, que désirez-vous que je fasse pour vous? Aussi dans Jean 15, verset 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus nous appelle ses amis et il a donné sa vie pour nous et il est là pour nous aider dans nos difficultés, pour nous aider quand ça ne va pas. Et finalement, c'est un peu ce qu'il nous demande. C'est que nous aussi, à notre tour, nous soyons serviteurs des uns des autres et que on ne puisse pas chercher la grandeur, les honneurs et quoi que ce soit, mais qu'au contraire, notre première recherche, ce soit de servir les uns les autres, et les honneurs et la gloire, tout cela, ça viendra, vous inquiétez pas pour ça. On est des enfants de Dieu, il n'y a pas de souci à avoir. Mais notre première recherche, c'est de se servir, c'est d'être serviteur des uns des autres, être esclave des uns des autres. Alors, pendant que je vais conclure, je vous demande simplement de baisser la tête avant la prière. Nous avons vu. Durant ce passage, que Jésus ne se détourne pas de nous quand nous l'appelons. Il ne nous juge pas, il n'a pas jugé Jacques, il n'a pas jugé Jean, mais il nous demande de considérer nos demandes, de considérer nos attentes à la lumière de la parole de Dieu. Et pour ce qui est de la grandeur, il nous montre par sa vie que les actes comptent bien plus que les paroles et que si l'un d'entre nous veut être grand, alors il faut qu'il soit serviteur. Ce que nous pouvons croire impossible, lui, il le rend possible. Lui qui était roi, il s'est fait serviteur. Dieu est cet oxymore. Et ce contraste nous montre qu'être grand ne doit pas nous enlever le sens du service, que le fait d'avoir raison ne doit pas nous enlever la douceur, que l'humiliation que nous pouvons subir ne doit pas nous enlever de pardonner aussi aux autres, et que le pouvoir ne doit pas nous enlever l'humilité. Alors lui-même qui était Dieu, il s'est fait homme et il a été crucifié à la croix pour que nous ayons la vie. Et il se tient toujours à notre écoute pour nos besoins. Alors il nous demande une chose, si vous le voulez bien, c'est d'être serviteurs des uns des autres, c'est-à-dire être disponibles les uns pour les autres, être à l'écoute des uns des autres, être remplis d'amour les uns envers les autres, faire des efforts, accepter à faire des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour les autres. Être rempli de patience, chercher à poser un sourire sur le visage de notre prochain. Et rappelons cette phrase de Jésus qui nous dit: Que désires-tu que je fasse pour toi? Jésus est là, et si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas, il est là pour les entendre. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta bonté, pour ta parole. Seigneur, dans ce passage que nous avons vu ensemble, tu m'as parlé moi-même le premier. Seigneur Dieu, en faisant cette étude, j'ai vu mes faiblesses, j'ai vu mes limites, j'ai vu mes défauts, j'ai vu tout ce qui n'était pas à ta gloire, Seigneur Dieu, et pourtant tu ne m'as pas renié, tu as voulu que je puisse faire cette exhortation pour montrer, Seigneur Dieu, que c'est toi qui changes le cœur des hommes. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, c'est ta puissance qui nous changera, qui nous transformera, Seigneur Dieu. Alors je te remercie pour ta bonté, pour ton amour, tu es celui qui nous accompagne, tu es celui qui nous aide, qui nous transforme et qui nous fait grandir. Seigneur, dans ta parole, tu nous demandes d'être serviteurs des uns des autres. Ce n'est pas toujours évident, Seigneur, mais enlève en nous l'orgueil. Enlève en nous, Seigneur Dieu, toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer et de pouvoir être serviteurs des uns des autres. Et de nous de vouloir te servir toi, de vouloir te servir aussi ceux qui nous entourent, nos parents, parce que ça commence déjà par la famille, nos enfants, nos frères et sœurs, mais aussi de notre entourage proche, nos amis, nos collègues, et tous ceux qui nous entourent, Seigneur Dieu. Donne-nous d'être serviteurs des uns des autres, comme toi, tu as été serviteur pour nous. Toi, de la manière que tu nous as aimés, que tu nous as sauvés, donne-nous de pouvoir le faire aussi pour ceux qui nous entourent. Car c'est à cela que nous verrons que nous sommes enfants de Dieu. C'est à cela que les hommes autour de nous seront sauvés. C'est à cela que les hommes verront que nous sommes enfants de Dieu et que ta gloire resplendira ici sur terre, Seigneur Dieu. Je te prie aussi, Papa mon roi, pour le cœur de chacune des personnes qui est ici présente. Tu sais, Seigneur Dieu, quels sont les besoins de chacun, quelles sont les attentes de chacun, Seigneur Dieu, nos désirs, nos peines, nos faiblesses, et je te prie de pourvoir pour nous, d'ôter de nos cœurs les difficultés, d'ôter de nos vies les choses qui sont difficiles, et de nous aider à te suivre sur ce chemin-là qui n'est pas évident, Seigneur Dieu. Restaure nos forces, aide-nous, Seigneur Dieu, apporte la santé, Seigneur Dieu, et que aujourd'hui nous puissions vraiment t'élever et te rendre gloire. Merci pour tout ce qui a été fait aujourd'hui, pour la louange, pour l'adoration, pour la parole qui a été donnée, Seigneur Dieu, par ta grâce, Père. Je te prie pour le reste de ce culte. Bénis-nous, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.